Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Et si, aujourd'hui, pour ce Ribbean, on allait faire un tour ensemble à Douarnenez. Douarnenez et sa plage des sables blancs, son île Tristan et son port de plaisance tout neuf. Ah, Douarnenez, l'augmentation de 105% des résidences secondaires, la diminution du nombre d'habitants et l'augmentation de 158% de logements vacants. C'est ce qu'a constaté le collectif Droit à la Ville, qui fait un travail de recherche depuis un an sur l'état du logement dans la ville. Je suis allée à la rencontre de Maxime et Julot, deux habitants de Douarnenez et membres du collectif Droit à la Ville.
Droit à la Ville, c'est un collectif qui s'est fondé autour de la réalisation d'une recherche-action sur la question du logement et de la mise en tourisme à Douarnenez. Donc c'est un groupe de personnes qui se connaissaient déjà avant et qui, dans différentes activités ou dans leur vie quotidienne dans la ville, se posaient la question de la problématique du logement et avaient envie d'essayer de dépasser un peu des ressentis et des discussions qu'on pouvait avoir à droite à gauche sur nos problèmes de logement respectifs pour essayer de produire autour de l'outil de la recherche-action un cadre d'analyse, de compréhension et de production de leviers pour résoudre cette problématique.
Comment vous définissez la recherche-action ?
La recherche-action, c'est un outil qui prend ses sources dans l'éducation populaire. C'est un outil qui permet à un groupe d'habitants et habitantes d'un territoire ou un groupe de personnes touchées par une problématique particulière, donc nous, en ce qui nous concerne, la question du logement et de la mise en tourisme, se saisir de cette problématique et, à travers des outils de la recherche universitaire, essayer d'analyser, de comprendre et de trouver des moyens d'action pour résoudre ou, en tout cas, contredire ces phénomènes.
Là, on est toujours sur le Rosmer, juste à côté du HLM de la Glacière. Et il y a un grand immeuble jaune en mauvais état, dont les vitres ont été murées, qui est vide depuis quelques années. Et je pense que quelque part, ça représente assez bien les problématiques de logement à Douarnenez, parce que c'était une copropriété avec plusieurs propriétaires, dont certains, je pense, qui avaient vraiment pas beaucoup d'argent et du coup qui étaient déjà en assez mauvais état. Et voilà, et en fait, quand les derniers locataires ou propriétaires sont partis, l'immeuble est resté vide, donc il est devenu vraiment vacant. Il a continué à se dégrader et aujourd'hui, il est vide, il est plus habitable en tant que tel. Il demanderait des sommes énormes pour être réhabilité. On se demande un peu ce que ça va devenir. C'est un immeuble vu sur mer qui pourrait accueillir au moins, je pense, 4 appartements, voire plus, qui pourrait aussi devenir 4 Airbnb uniquement loués à la location saisonnière, qui pourrait devenir peut-être une auberge de jeunesse, donc des logements un peu plus accessibles et pas chers pour l'accueil d'autres populations touristiques, vu que ça n'existe pas à Douarnenez.
Du coup, concrètement, contre quoi et pourquoi lutte Droit à la Ville ?
Droit à la Ville Douarnenez, le premier axe, c'est un axe d'analyse et de compréhension. Avant de lutter pour ou contre, c'est partir d'un ressenti largement partagé qui est des problématiques de logement, d'essayer de voir quelles sont les causes structurelles et longues de ces problématiques de logement, quelles sont ces causes plus conjoncturelles et courtes de ces mêmes problématiques, d'essayer de voir quels outils on peut mobiliser pour observer et confronter nos ressentis avec la réalité. Il y a deux outils, il y a les outils d'analyse statistique sur l'état de l'urbanisation de la ville, du logement, et aussi sur la répartition sociale des habitants dans la ville, quoi. Donc il y a tout ce panel d'outils statistiques. Et ensuite, il y a un deuxième outil qui est tout aussi important, c'est celui de l'entretien. Donc on essaye de mener un maximum d'entretiens, pas forcément autour d'un panel représentatif d'un point de vue statistique de la ville, mais en tout cas d'aller dans un maximum de quartiers avec un maximum de profils d'habitants. et d'habitantes pour observer à la fois la façon dont les habitants et habitantes habitent leur territoire, la façon dont ils se logent, la façon dont ils vivent différents quartiers et la façon dont ils observent ou non des transformations et la façon dont ils s'arrangent avec ces transformations.
Du coup, vous êtes habitante de la ville de Dordogne ?
Oui, oui, bien sûr.
Ça fait combien de temps que vous habitez ici ?
71.
Depuis 1971.
C'est quoi les points positifs de Douarnenez ?
Les points positifs, le cadre est extraordinaire, quoi. Alors, au niveau des petits commerces et tout ça, c'est formidable. On a tout dans le centre-ville.
Oui, sauf qu'il y en a de plus en plus à fermer.
Oui, quand même, ça ferme.
Et au niveau du logement ?
Il paraît que c'est très difficile de trouver. Oui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à acheter, il paraît, sur Douarnenez.
Oh bon, ça a l'air de se vendre.
Et ça, il paraît que ça se vend. Donc ça part, hein, ça part.
Il semblerait que pour le location,
en location, c'est difficile. Et quand elles sont rachetées, ce ne sont pas des gens de Douarnenez qui rachètent. Hein. Ce sont des gens de l'extérieur pour des maisons de vacances et tout. C'est ce qu'on voit, nous. Hein. C'est ce qu'on ressent. Hein. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est l'impression qu'on a, hein, quand on regarde.
Toutes ces analyses, ces entretiens, ils ont donné quoi comme résultat ? Qu'est-ce que vous avez découvert ?
On n'a pas découvert grand-chose. La plupart de ce qu'on a trouvé dans le cadre de nos recherches, c'est des données qui existaient déjà et qui étaient déjà produites. Nous, à notre sens, elles étaient peu prises en compte, mais elles étaient déjà produites. Ça a confirmé un sentiment qu'on avait, qu'il y a un problème structurel de logement à Douarnenez, qui est lié en partie à un taux de logement vacant très important depuis les années 70, qu'il y a une désertification de la ville, il y a une balance démographique qui est en baisse, pareil, depuis les années 70, depuis la désindustrialisation, on va dire, qu'il y a une structure sociale de la ville qui est très populaire, voire pauvre et précaire, et que ce phénomène a l'air de continuer, voire sur certains aspects, s'accentuer ces dernières années. Et nous, là où on essaye d'avoir un regard un peu décalé ou différent par rapport aux études qui sont menées ou aux observations statistiques qui ont déjà été produites, c'est qu'on essaye de faire le lien entre ces inégalités sociales et spatiales et la question de l'attrait nouveau sur le marché des biens touristiques sur le territoire de Douarnenez.
Pour moi, cette ville, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ville au XXe siècle où il y a un énorme passé ouvrier autour de la pêche de la sardine. Donc c'est très nombreux, ça allait jusqu'à 6000 ouvrières qui travaillaient dans les conserveries et plusieurs milliers de marins-pêcheurs, et c'est vraiment ça qui a dominé l'histoire de Douarnenez au XXe siècle. Et pour moi, c'est un petit peu le point de départ, une ville où, qui est témoin de la lutte des classes et de la lutte des classes populaires pour vivre cet espace. C'était une des premières villes à élire un maire communiste pendant le XXe siècle, et ça aboutit par exemple à la construction de HLM sur le bord de mer, ce qui est quelque chose que tu peux pas voir ailleurs en France. On part d'un territoire avec vraiment une histoire extrêmement populaire qui est très particulière et qui plus est en bord de mer, donc dans une ville portuaire.
Là, c'est celui-là qui symbolise un petit peu ça, quoi, l'immeuble blanc qu'on voit là, juste derrière cette porte en pierre. Il s'appelle la Glacière. C'est un HLM qui a été construit, il me semble, dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est un immeuble qui a une vue directe sur la mer. Qui est vraiment qu'on ne peut pas mieux être implanté à Douarnenez et dans lequel il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'appartements, quoi.
Et donc c'est plus un HLM maintenant ?
C'est toujours un HLM. C'est toujours un HLM, mais c'est un peu le genre de HLM qui symbolise le risque qui est lié aux réformes des offices HLM avec la loi Elan. Et l'office HLM de Douarnenez, il se bat pour garder son autonomie de fonctionnement parce que c'est un office HLM qui fonctionne très bien, qui est très dynamique et qui se battait contre certains aspects de la loi Elan qui était cette fusion des offices HLM et aussi la revente au privé d'une partie du parc. Et c'est vrai que quand on voit cet immeuble Vue sur mer qui en plus est constituée vraiment de petits appartements. On imagine très bien son devenir touristique, quoi. On imagine bien une espèce de Pierre et Vacances à la place.
Un des outils de la recherche action qu'on mène, c'est aussi un outil d'analyse historique, donc qui nous permet d'essayer de penser ce qu'ont été les décisions politiques qui ont permis l'installation des classes populaires à Douarnenez, mais aussi les décisions politiques qui ont permis l'installation du tourisme et des formes qu'ont pris le tourisme à Douarnenez. Parce que souvent, d'un point de vue caricatural, notre recherche action elle est réduite à un groupe d'anti-touristes. En fait, il n'est pas aujourd'hui question de dire pour ou contre le tourisme. On est quand même toutes et tous à un moment touristes quelque part. Mais la question, c'est de savoir comment le tourisme produit des effets sur les espaces dans lesquels il s'intègre. Et qu'en fait, il y a tout un tas de formes que peut prendre une ville qui est visitée pour des raisons touristiques. Il y a tout un tas de panels qui permettent d'être une ville visitée. On n'est pas soit anti-touriste, soit pro-touriste. La question, c'est de savoir comment le tourisme s'implante, sur la base de quelles décisions, de quelles logiques, et quels effets ça produit. Et voilà, et du coup, il y a tout un tas d'orientations là-dedans, et Douarnenez, c'est un territoire qui est assez intéressant, parce qu'on a d'un côté le Douarnenez dont parlait Julot juste avant, ouvrier, industriel, populeux, et de l'autre côté du pont, un tréboul, qui lui est vraiment l'image de la station balnéaire classique. Et qu'en fait, au 19e siècle, c'était deux villes qui se ressemblaient assez, avec quelques conserveries, des pêcheurs. Et à un moment, il y a eu une transformation complète où la logique industrielle a dominé à Douarnenez et elle a aussi empêché une certaine forme de mise en tourisme parce que la ville était soumise à des odeurs de friture très fortes, parce que la ville était habitée en son centre-ville par des classes populaires qui étaient plutôt repoussoires pour nombre de touristes. Et de l'autre côté, à Tréboul, qui étaient des espaces un petit peu plus de landes et un petit peu moins investis par les conserveries, là, il y a eu un attrait foncier nouveau. Donc, il n'y a pas de développement naturel. C'est pas une évidence qu'un territoire qui soit au bord de la mer, qu'un territoire qui soit en Bretagne sur le littoral ou sur n'importe quel littoral français, soit une station entièrement dominée par le tourisme. C'est lié à des contextes historiques longs, à des logiques économiques, et c'est lié à des décisions politiques et des modalités d'organisation des habitants, de comment ils vont faire avec tout ça. Et c'est tout ce cheminement-là qui nous permet d'aller vers une ville qui sera plus ou moins habitée, plus ou moins populaire, plus ou moins vivante à l'année, ou plus ou moins dominée par l'activité touristique et peut-être éventuellement une ville qui continue à se désertifier, qui devient de plus en plus difficile d'accès pour les personnes à faible revenu, qui continue à produire une saison morte de plus en plus forte et qui va un peu en contradiction avec les désirs d'installation sur un territoire.
Et au niveau du logement, comment ça se passe ici ?
C'est compliqué. Après, c'est compliqué pour les propriétaires aussi. Là, on a des logements en location et c'est pas ça non plus. Et des fois, on préfère ne pas louer que se retrouver. Bah, malheureusement, c'est ça, quoi. Et il y a beaucoup, comme dans beaucoup de villes, de toute façon, c'est les plateformes de location qui préfèrent louer à la semaine plutôt qu'à l'année. Hein. Donc c'est vrai que ça devient compliqué pour ça, je pense.
Du coup, il y a plein de maisons qui restent vides toute la partie hors saison de l'année.
Je pense. C'est très dommage. Mais bon, à partir du moment où il n'y a pas de boulot, souvent les locataires sont pas toujours solvables non plus, quoi. Mais on a fait l'expérience, donc c'est vrai qu'il y a des fois où on préfère ne pas louer.
Il semble aujourd'hui, quand on étudie le marché dans un temps plus court, de quelques années, voire de quelques mois avec l'effet post-confinement, et on voit qu'il y a un marché qui est très stimulé sur Douarnenez autour de la résidence secondaire et des locations de courte durée. Sauf que ce dynamisme nouveau, il s'implante dans une ville où il y avait déjà une tension sur le logement qui était liée à un taux de logement vacant très fort, à un état du bâti qui était assez mauvais, qui est lié aussi encore une fois à la structure sociale de la ville où il y a beaucoup de locataires et de propriétaires pauvres qui n'avaient pas forcément l'argent pour retaper au fur et à mesure les biens. Donc on a cette structure du logement avec beaucoup de logements vacants, beaucoup de logements insalubres ou mal rénovés, et ce dynamisme nouveau sur le marché de la location touristique. Et en fait, aujourd'hui, il y a une confrontation sur le marché entre des projets d'installation ou de mobilité d'habitants déjà là à Douarnenez, et des projets d'investissement pour des résidences secondaires ou des logements touristiques en général. Et en général, la capacité financière des investisseurs touristiques est plus élevée que la moyenne des revenus des habitants et habitantes de Douarnenez. Donc ça crée une difficulté plus grande pour les habitants et habitantes de la ville d'accéder soit à du locatif, soit à de l'achat. Et donc ça augmente les difficultés de logement et les inégalités sociales et spatiales à travers des phénomènes d'augmentation des prix et d'augmentation des loyers dans une ville où 30% des locataires vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une augmentation assez faible du niveau des loyers peut avoir des effets très forts sur les familles ou les individus qui habitent le territoire.
Est-ce qu'il y a des échos de votre lutte ici dans d'autres villes en Bretagne?
Je ne sais pas s'il y a des échos dans d'autres villes en Bretagne. En tout cas, nous, dans les objectifs de la recherche action, il y a la question de la mise en réseau. On est en contact régulier avec des habitants de Groix qui sont montés aussi en collectif qui s'appelle Ressac. On est en contact avec des habitants et habitantes de Saint-Malo qui sont eux montés sur un collectif plus spécifiquement contre Airbnb. On est en contact avec des habitants aussi et habitantes de Belle-Île qui sont organisés autour de plusieurs collectifs. On a été en contact régulier avec le collectif Dispar, qui est un collectif de jeunes indépendantistes qui ont beaucoup agi, eux, un peu plus spécifiquement sur la question des résidences secondaires.
Pour vous, ça serait quoi une ville idéale?
Une ville idéale?
Ouais.
Ça n'existe pas.
La ville idéale,
ouais.
Je sais pas, plus vivant. Parce que je sais pas si... Bon, là, il y a le confinement, c'est un peu particulier. Mais je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Douarnenez l'hiver. C'est triste.
Si vous deviez imaginer une ville idéale, ce serait quoi?
Je trouve qu'il y a beaucoup de bâtiments vétustes, en fait. Mm-hmm. C'est un peu dommage, quoi.
Voilà, la ville idéale, je sais pas, déjà plus... le climat, déjà, qui me...
Ça serait quoi pour vous l'image idéale de la ville? Comment vous voulez transformer la ville?
Je sais pas exactement ce que serait ma ville utopique. En tout cas, si on prend un peu au sérieux la question du droit à la ville, on pourrait imaginer qu'une ville utopique, c'est une ville qui pense comment les habitants et les habitantes peuvent produire eux-mêmes l'espace dans lequel ils vivent. Que ce soit une forme, un projet d'urbanisme autogéré qui réponde aux besoins et aux envies des populations et qui ne soit pas uniquement structuré autour de la rationalité économique et marchande. Donc c'est une forme de réappropriation de l'espace urbain qui ne se limite pas à la démocratie participative ou à une vision libérale de la mixité sociale, mais qui permet réellement aux habitants et habitantes de produire un espace qui leur ressemble et de produire un espace à travers des outils de décision réels qui permet de réduire les inégalités sociales et spatiales qui existent dans la ville et qui sont pour certaines causées par des effets locaux et pour plein d'autres causées par des effets qui sont bien plus larges et qui dépassent le microcosme semi-insulaire de Douarnenez.
Et là en face, la grande maison néo-bretonne, juste en face avec les... Il y a un balcon, enfin il y a un garage en bas et au-dessus deux fenêtres et encore deux fenêtres à droite et à gauche là. Cette grosse néo-bretonne, elle appartient à Madame le maire de Douarnenez et à sa famille, enfin une SCI familiale. Et c'est une maison de famille semble-t-il, qui a été reconvertie il n'y a pas très longtemps en gîte, en meublé touristique qui est présent sur toutes les plateformes de location. Presque 1000 euros la semaine suivant la période de l'année. C'est très grand. Ça pourrait loger une très grande famille qui aurait besoin de se loger par exemple. Dans la municipalité actuelle, il y a pas mal d'agents immobiliers, des gens qui sont investis autour des questions de promotion immobilière ou d'office notarial et possiblement c'est pas neutre aussi par rapport à la vision, au regard et aux objectifs que les élus portent sur la ville, quoi. Ça fait partie aussi des choses qui sont en général assez symboliques des transformations, de voir la constitution d'un conseil municipal. À Douarnenez, ça a été historiquement des représentants ouvriers. Ça produit forcément un regard différent sur la ville, sur les objectifs.
La ville utopique, pour moi, elle va forcément aussi avec un système plus utopique. Enfin, je peux pas, dans un monde qui pour moi n'est pas du tout utopique, j'ai vraiment du mal à me projeter dans une ville utopique. Mais en tout cas, quelque chose qui se rapproche du Douarnenez du XXe siècle, où c'est ce qu'on dit, des populations précaires ont pu avoir un logement vraiment chouette, en bord de mer. Il y avait beaucoup d'investissements dans la vie culturelle, la vie associative, et quelque chose de chouette qui gommait un petit peu les inégalités du système global dans lequel on vit. Et on s'en éloigne pas mal, et moi en tout cas, mon souhait, ce serait de réinverser un petit peu la roue et d'essayer de jouer sur les quelques leviers municipaux qui peuvent exister. Et par contre, ça demande un courage politique et une volonté d'aller vers là. En tout cas, moi, ma participation dans la recherche-action, c'est tenter de freiner ce mouvement qui nous ramène vers cette ville fictive que je décris, où c'est un espèce de zoo touristique, un grand parc d'attractions. Et c'est des choses qui se produisent en France, en Europe. On parle souvent de Barcelone, on parle souvent de Lisbonne, qui ont connu des évolutions de villes populaires, vivantes, etc., des villes qui deviennent un peu musées, avec une vie qui s'en éloigne. Et en tout cas, moi, à travers le travail dans ce collectif, j'espère en tout cas freiner vers la ville de mes cauchemars, et si possible, même essayer de... Si on prend l'image d'un bateau, puisqu'on est dans une ville portuaire, essayer de reprendre la barre et de la faire retourner un petit peu vers une ville accessible et vivante, et avec une vie à l'année, et des gens qui vivent vraiment là, et pas un territoire qui ne vit que 2-3 mois par an.
Ce serait quoi pour vous une ville idéale ?
Une ville idéale, alors là, c'est pas évident à définir, ça. Hein. Là, c'est pas facile. Hein,
l'idéal, il faudrait que tout le monde ait de quoi se loger, travailler.
Oui, déjà ça. Travailler et se loger.
Et de la culture, éventuellement.
Oui, oui, ça. Mais c'est surtout, il faudrait pouvoir se loger et travailler.